Je suis très heureux et je suis sûr qu'il en est de même pour tous les auditeurs de l'émission En parcourant les archives de vous retrouver sur les ondes de Radio Noble-Val. Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va continuer à nous parler du XVIIIe siècle. Quelle musique avez-vous choisie pour illustrer cette émission?
Nous écouterons aujourd'hui de la musique de Rameau. Jean-Philippe Rameau, dont on a fêté l'année dernière, en 83, le tricentenaire de la naissance. Rameau est à plus d'un titre un très grand compositeur, celui qui a marqué le plus profondément la musique française du XVIIIe siècle. De Rameau, nous écouterons donc deux passages des concerts en sextuor. D'abord, deux menuets, légers, gracieux, très caractéristiques du genre. Ensuite, deux tambourins en enchaînement. Le tambourin, comme on peut le deviner, est une danse d'origine méridionale, de caractère enjoué et joyeux, bien rythmé.
Le XVIIe siècle a vu le pouvoir local se concentrer entre les mains d'une très petite minorité de nobles et de bourgeois. Peut-on d'ailleurs encore parler de pouvoir quand toutes les décisions concernant les Saint-Antoninois sont prises à Paris par le roi? C'est certainement au XVIIe siècle que le peuple Saint-Antoninois était le plus maîtrisé. S'il ne rétablit pas l'égalité, le XVIIIe siècle semble quand même porteur d'un esprit nouveau. Ce qui vous avait amené, Monsieur Julien, lors de la dernière émission, à affirmer avec Michelet que le XVIIIe siècle était bien le grand siècle.
Oui, en qualifiant le XVIIIe de grand siècle, Michelet détruisait le premier, une idée reçue, qui voulait que seul le XVIIe, celui de Louis XIV, celui du roi Soleil, celui des grands écrivains classiques, et qualité pour mériter ce titre. Aujourd'hui, chacun s'accorde à donner raison à Michelet, puisque cette période, qui va de la mort de Louis XIV à la révolution de 1789, est communément appelée « siècle des Lumières », aussi bien dans les anthologies littéraires que dans les manuels d'histoire. Et cela, en raison même du puissant mouvement des idées qu'il a caractérisé et des conséquences intellectuelles, économiques, techniques, sociales et humaines que ce siècle, ou ce mouvement des idées plutôt, a entraîné. Le 18e marque incontestablement la naissance du monde moderne dans lequel nous vivons. Et bien que notre ville ait perdu une grande partie de sa vitalité après la révocation de l'édit de Nantes et les persécutions religieuses qui ont suivi, elle n'en a pas moins participé à l'évolution générale des esprits et des mentalités. À ce grand mouvement d'ouverture, ouverture des esprits, ouverture de l'espace, comme le révèlent les documents d'archives. Justement, les registres de délibération du Conseil de ville deviennent, au cours de cette période, beaucoup plus copieux et plus riches. La vie de la cité, maintenant, y apparaît avec des détails, me semble-t-il, très significatifs d'un changement de mentalité. Le changement, c'est d'abord à partir de 1719, au moment de la nomination des officiers de ville, c'est la nomination d'un valet consulaire chargé, nous dit-on, tout spécialement, d'avoir soin de la gazette. C'est une innovation considérable. Désormais, la communauté est abonnée à un journal hebdomadaire, dont nous ne savons pas, malheureusement, s'il s'agit de la Gazette de Hollande, de la Gazette de France ou du Journal de Genève. Ce journal hebdomadaire apporte ici, chaque semaine, l'air de l'extérieur et les nouvelles de France, d'Europe et du monde. Cette gazette, elle est lue par les consuls, bien sûr, mais aussi par les notables et sans doute par les marchands et les artisans les plus évolués, puisqu'elle est à la disposition du public. Les chanoines du chapitre sont eux-mêmes abonnés à la Gazette de Hollande. Le changement, c'est aussi, à la même époque, la création de l'emploi de porteur, une fonction nouvelle, au salaire annuel de 60 livres d'abord, qui passera très vite à 75 livres. Ce porteur, il est chargé d'assurer deux fois par semaine le transport du courrier des consuls, mais aussi des lettres, marchandises, argent que lui confieront les particuliers contre rétribution. Le port d'une lettre de Saint-Antonin à Montauban était payé un sou. À cette époque-là, les sommes d'argent étaient payées, l'argent que l'on lui confiait pour aller le porter à une personne de Montauban, de qui que ce soit. Il n'y avait pas d'échec à ce moment-là, on lui confiait de l'argent. Il prenait 6 deniers par livre d'argent. 6 deniers. Ce n'est pas beaucoup. Il fallait 12 deniers pour faire un sou, il fallait 20 sous pour faire une livre. Vous n'avez qu'à faire le calcul. Et enfin, les marchandises, c'était au poids. Au poids, à la livre poids, il prenait là aussi un sol, un sou, par livre de poids. Il partait, ce porteur, tous les mardis et tous les vendredis de Saint-Antonin, au début, pour se rendre à Montauban. Là, à Montauban, au bureau de distribution, c'est-à-dire au bureau de poste, de messagerie officielle tenu par l'administration, il prenait le courrier et les paquets qui arrivaient de Paris, ou de Bordeaux, ou du Languedoc. Et il rapportait le tout le lendemain à Saint-Antonin, et ainsi de suite, donc 2 fois par semaine. On changera plus tard les jours de départ de Saint-Antonin parce qu'on voudra arranger le service. De même, quand la grande route de Montauban à Nîmes sera construite, le porteur de Saint-Antonin n'ira plus à Montauban, mais il ira chercher le courrier à Caussade.
Est-ce qu'on a une idée de l'importance des colis et des lettres qui étaient transportées?
Non, je ne possède aucun élément pour répondre à cette question. Simplement, je peux dire que ça ne devait pas être un pactole pour le porteur, puisque à partir de 1746, si je ne me trompe, si j'ai bien la date en mémoire, il va demander une augmentation de son indemnité qui passera de 60 à 75 livres. C'est donc il ne fait pas assez d'affaires avec les particuliers. Et de toute façon, il faut considérer que c'est une nouvelle fonction qui s'amorce et qu'il faut que des habitudes se prennent. Les gens conservent l'habitude de faire transporter eux-mêmes par un ami, par un voisin, par une connaissance, les affaires qui les concernent, lettres, paquets ou argent. Et il faudra sans doute attendre encore des années pour que ça devienne, comme on dirait aujourd'hui, rentable. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est la première étape dans l'établissement d'un service postal régulier qui deviendra officiel, tout à fait officiel, en 1770, où l'administration ouvrira ici, à Saint-Antonin, un bureau de distribution avec un directeur des postes que dont nous savons le nom, il s'appelait La Treille. Et ce bureau de Saint-Antonin, ouvert en 1770, est un des premiers du Rouergue. Enfin, le changement, c'est la présence, à la même époque, à Saint-Antonin, d'un maître écrivain. Rappelez-vous, au XVIIe, il y avait un maître musicien. Cette fois, c'est un maître écrivain qui s'appelle André Chauveau. Il est fort estimé dans le pays et il mettait son savoir-faire à la disposition de tous ceux qui avaient à rédiger lettres, suppliques, réclamations, placées. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on avait toujours la grande majorité des gens avaient besoin de quelqu'un pour écrire leurs lettres. Les notaires avaient rempli cet office pendant bien longtemps, mais maintenant ça devient encore plus rentable, ce qui montre la nécessité et l'augmentation de la communication, le besoin de communication, puisqu'il y a une fonction spéciale, maître écrivain. Il avait en plus ouvert une école privée, ce nommé Chauveau, qui connut un succès tel que les consuls lui accordèrent une gratification de 120 livres par an, à condition qu'il accepte dans son école 4 élèves pauvres, ça c'est bien quand même, hein, c'est nouveau ça. 4 élèves pauvres qu'ils les admettent gratuitement sans payer et qu'ils ne demandent pas plus de 20 sous par mois aux autres élèves. On faisait une sorte de réglementation de la profession. Mais il avait des élèves de partout, on le disait excellent grammairien, arithméticien, et il n'avait pas que des élèves de Saint-Antonin d'ailleurs, il avait des élèves des villes et des communautés voisines. Il faisait ainsi une sérieuse concurrence au révérend père Carme, chargé officiellement, eux, de l'école communale de garçons, cependant que les filles allaient à l'école chrétienne, comme on disait, des dames noires.
Il y a donc 3 écoles à Saint-Antonin. Où étaient-elles situées, ces écoles?
Bon, alors, l'école de M. Chauveau, je ne sais pas. Elle était une école privée, c'était chez lui. Mais où habitait-il? Je ne le sais pas. L'école des révérends père Carme, elle était au couvent des Carmes, qui depuis le siège a été transféré, reconstruit, au-delà du temple actuel. Et d'ailleurs, la nouvelle gendarmerie que l'on va construire va occuper une partie de l'ancien couvent des Carmes. Et l'école des Carmes se faisait dans la chapelle des Carmes, qui n'existe plus aujourd'hui, et dont je ne connais pas exactement l'emplacement. Quant à l'école des dames, l'école chrétienne des dames noires, hein, ou qu'on appelait encore aussi les dames régentes, qui étaient 3 institutrices, elle était tout simplement là où habite M. Desban. Et cet enclos avec un portail, et cette maison où habite M. Desban avec sa cour, avait été vendue à la communauté par Mme de Saint-Marie, une descendante de la famille noble des de Lestang de Saint-Marie. Tout cela, hein, et ces écoles en pleine prospérité, qui rappellent un peu ce qui s'était passé sous la République protestante, dénotent la naissance d'un besoin nouveau de communication et d'information, et que me semble encore confirmer ce texte curieux, relevé dans le registre d'état civil de la même époque, inscrit là comme un acte de naissance. Voici ce texte. « Ce jour-là, 5e jour du mois d'août de la présente année 1718, à la prière des maîtres et garçons papetiers de cette ville, a été chantée pour la première fois dans l'église paroissiale et collégiale une grande messe à l'honneur de Notre-Dame des Neiges, leur patronne, à laquelle ont assisté le sieur Jean Pommiès, à qui la papeterie appartient, Aubin Cantagrel et Jean Dansette, fermier de Jean Gorce, Pierre Lombregot, Antoine Peyre et Pierre Perrier, compagnons, laquelle messe on continuera de chanter chaque année à Paris jour, et pour la rétribution de laquelle sera donnée au chapitre par les 10 compagnons, chaque année, une rame de papier fin coupé, ainsi qu'ils ont convenu aujourd'hui, en foi de ceux, à Saint-Antonin les joyants que dessus, et ont signé 2 fémis, prieurs et curés, Pommiès et Perrier, les autres ne savaient pas signer. Ainsi, dès 1718, s'implante dans notre ville la fabrication du papier, le papier, moyen par excellence de communication à cette époque. Le papier, support de l'écriture, donc de la pensée. Le papier, enfin, gage du développement de l'instruction. Cette papeterie était installée au moulin de Fontalès, en remplacement du moulin foulon de drap qui jusque-là avait servi au foulage des étoffes de laine. Elle s'y maintiendra, cette papeterie, exploitée par la même famille, jusqu'au milieu du XIXe siècle, et nous possédons aux archives plusieurs exemplaires de ce papier fabriquées ici, des feuilles de papier verger, secs et claquants, blanches, crème ou bleues ou vert d'eau, avec en filigrane, et c'est ça qui est émouvant, Saint-Antonin, une cloche et les initiales du propriétaire, soit J.P. Jean Pommiès ou F.P. François Pommiès, son petit-fils.
Oui, alors, Monsieur Julien, on parle beaucoup aujourd'hui de certaines industries qui ont fait la richesse de Saint-Antonin. Et on parle peu de cette papeterie. Pourquoi ?
Parce que cette papeterie a eu le malheur d'arriver dans les temps modernes, c'est-à-dire le 18e et le 19e, qui ne sont pas encore exploités par les historiens de façon satisfaisante. Et notamment à Saint-Antonin, nous vivons depuis toujours dans le récit de l'histoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et les temps modernes ne sont pas connus, malheureusement.
Quelle était l'importance de cette papeterie ?
L'importance est difficile à décrire. Il faudrait faire des études économiques que je n'ai pas eu le temps de faire et certainement consulter des documents que nos archives ne possèdent pas. Mais je pense qu'elle était une des industries les plus importantes de Saint-Antonin à cette époque-là, hormis les tanneries, puisqu'on y comptait trois compagnons papetiers plus deux papetiers, n'est-ce pas ? Ces deux papetiers louant la papeterie à un nom Mégors qui lui-même l'avait affermé à Jean Pommiès. Donc, 5 personnes plus des apprentis travaillent quotidiennement là-dedans.
C'était un papier de bonne qualité qui était fabriqué à Saint-Antonin.
Excellent. Si je pouvais vous le montrer, vous le verriez, mais on ne peut pas à la radio montrer. Ah, j'aurais pu penser à le faire craquer dans le micro, peut-être. Oui. C'est un papier d'excellente qualité, ce qu'on appelle le papier verger ou papier à la cuve.
À cette époque-là, quelle était la méthode de fabrication du papier et quelles étaient les matières premières utilisées ?
Ah, bien là, si certains d'entre vous ont regardé l'émission pour les enfants du mardi, c'était le mardi 9 ou 10, 10 avril, ils auront pu voir là exactement comment fonctionnait la papeterie Pommiès, n'est-ce pas? La fabrication du papier se faisait à base de chiffons de lin ou de chanvre qui étaient déchirés et trempés dans de l'eau pour que la colle, pour que l'après disparaisse. Ensuite, ils se réduisaient plus ou moins à une pâte assez molle, enfin pas une pâte, mais une matière assez molle, très humectée, que l'on plaçait dans une cuve, et là ils étaient foulés, martelés, tapés pendant des heures avec une sorte de marteau de bois qui était actionné par la turbine du moulin. Et c'était le même marteau d'ailleurs qui servait à fouler les draps auparavant. Quand on obtenait ainsi une bouillie, une sorte de pâte à laquelle on ajoutait de la colle, une colle spéciale dont je ne connais pas le secret, et quand on jugeait que la pâte était assez homogène, parfaitement liée, la colle bien incorporée, on plongeait dans cette cave une sorte de cadre tendu de fil, comme un tamis si vous voulez, on le plongeait dans cette pâte et l'on remontait tout de suite le cadre recouvert d'une pellicule de pâte humide, on mettait tout ça à sécher, et quand c'était sec, on avait une très belle feuille de papier dit à la cuve. Voilà la fabrication du papier à Saint-Antonin à cette époque-là. Ce n'était pas une fabrication mécanique, mais le mécanisme y était introduit par le martinet.
Oui. Vous nous disiez qu'on pouvait voir en filigrane une cloche et puis écrit Saint-Antonin et les initiales.
Oui.
Techniquement, comment on pouvait le...
C'était dessiné sur la grille de fil. Je pense que quand j'ai dit que c'était un tamis, on peut dans un tamis faire un tissage ou tendre les fils de façon régulière ou au contraire, par un système de liaison de fils, faire des opacités, faire des parties où ça ne va pas passer, le fil ne va pas marquer. Je pense que c'est comme ça qu'on faisait, mais il faudrait aller consulter les papeteries qui sont encore en usage en France de papier à la cuve, dans le Puy-de-Dôme à Ambert et à Fontaine de Vaucluse, dans le Vaucluse, à la source de la Sorgue.
Où était commercialisé ce papier fabriqué à Saint-Antonin ?
Essentiellement, il était vendu à Saint-Antonin, qui était déjà un marché, un débouché important, ne serait-ce que les livres des consuls, les actes des particuliers, les actes des notaires, les actes des avoués, les actes des avocats. Et là, nous avons un marché fait entre le papetier de la papeterie de M. Pommiès et les consuls pour la fourniture du papier à la communauté pendant toute l'année. Mais cela ne suffisait pas, bien entendu, comme débouché. Il est certain que le papier de Saint-Antonin, qui, je pense, était d'excellente qualité, puisqu'on le qualifie de tel sous Louis XVIII en 1817, on le qualifie encore à cette époque-là de papier d'excellente qualité, eh bien je pense qu'il trouvait son débouché partout, même à Montauban, à Toulouse, et que les papetiers étant entreprenants s'arrangeaient pour obtenir des marchés comme le fait aujourd'hui tout fabricant.
C'est donc la famille Pommiers qui restait tout le temps propriétaire de cette papeterie.
Oui, de père en fils.
Qui c'était cette famille? Et puis, est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue?
Ah ben voilà, ça fait partie de ces gens qui arrivent dans un jour à Saint-Antonin. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu ce nom dans les notables Saint-Antoninois. Tout à coup, il apparaît à la fin du XVIIe, on ne sait pas d'où il vient. Est-ce que c'est un étranger qui s'est marié avec une fille du pays? Je n'ai jamais pu établir la filiation de ces Pommiers. Ce sont en tout cas des gens venus d'ailleurs. Et ça me paraît significatif pour Saint-Antonin. Il semble qu'à partir de là, toute tentative de progrès technique, économique, commercial, ne sera entreprise que par des étrangers. Les gens du pays se laisseront doucement bercer dans une léthargie heureuse en se contentant du revenu de leurs nombreuses métairies ou de leurs terres. C'est dommage. S'il y avait eu à Saint-Antonin un esprit d'initiative beaucoup plus grand, et s'il y en avait encore un comparable, peut-être n'en serions pas là. De communication, d'ouverture vers le monde, se manifeste encore par le souci, maintes fois affirmé des consuls, donc des habitants quand même, d'améliorer les moyens de se déplacer, de sortir de cet isolement où se trouvait notre ville, dans son vallon enfermé. Jusqu'alors, les routes et les chemins étaient plutôt des pistes, guère différentes de ce qu'ils étaient au Moyen-Âge. Et l'on peut dire que le réseau des voies de communication dans notre province était celui qu'avaient connu les Gaulois ou les Gallo-Romains. Utilisables plus ou moins bien par les piétons, les animaux de bât et les cavaliers, ils étaient à peu près impropres au roulage, qui était le nouveau moyen de transport. Et innombrables sont à cette époque les doléances sur le mauvais état des chemins, pleins de boue en hiver, de poussière en été, trop souvent dégradés par les orages dans leur partie accidentée, ce qu'on appelait la côte de Montauban, la côte de Villefranche, qui devenait impraticable au premier orage. Certes, pour le grand commerce avec Bordeaux et les îles, je parle de Saint-Domingue, des Antilles, les négociants saint-antoninois, comme les Montalbanais, utilisaient la voie d'eau, c'est-à-dire la rivière d'Aveyron, à partir de Bruniquel ou de Montricourt. Ça, il faut le savoir. Encore fallait-il pouvoir arriver jusque-là. Seul le trafic vers le Languedoc, grâce au pont de Saint-Antonin et au chemin royal de Cordes, était à cette époque-là satisfaisant. Il faudra attendre 1740 et l'arrivée d'un intendant dynamique, l'Escalopier, pour que les choses changent. Il réussira en 16 ans à équiper notre région d'un réseau routier moderne, absolument sans égal dans notre histoire avant la construction récente des autoroutes. C'est ça qu'il faut bien savoir. On peut dire que les grands axes routiers actuels datent de cette époque. Les ingénieurs de l'escalopier appliquent des principes simples. Aller au plus court. Et donc la route sera droite. Éviter les vallées et les ponts. Et donc la route chevauche les crêtes. Ondulance enfin sur les plateaux. Voyez la route de Montauban à Villefranche par Caylus, construite à cette époque pour relier Montauban à Nîmes. Voyez le tronçon de cette font à Saint-Antonin, construit aussi à cette époque. On reste saisi d'admiration devant de pareilles réalisations quand on pense que tout a été fait à la pioche, à la pelle, que les matériaux et les déblais et les remblais ont été transportés par les charrettes à bœufs de la corvée royale. Car ce sont les gens de chez nous qui les ont construites, ces routes, ne l'oublions pas. Ce sont nos paysans qui ont tout fait, de cette font à la Mandine et de cette font à Saint-Antonin, y compris, et ça on ne le sait pas souvent, la plantation des arbres sur les deux côtés. Et qu'est-ce qu'on plantait? Obligatoirement, il fallait planter des arbres. On plantait des frênes et des ormeaux. Pourquoi? Pour faire de l'ombre, certes, mais aussi parce que c'était des arbres de production de bois, de charronnage. Le roulage augmente, on a besoin. Les charronnes deviennent actives. Ces arbres étaient achetés par la communauté. Et ils étaient plantés, non pas au bord de la route, au bord de la chaussée, mais ils étaient plantés sur les terres des riverains. Ce sont des arbres qu'il faudra remplacer, d'ailleurs, obligatoirement, sous peine d'amende, infligée par l'intendant, s'ils n'ont pas pris convenablement ou s'ils meurent à cause de la sécheresse. Pour la seule côte de Montauban, vous entendez bien, c'est-à-dire du pont de la Condamine jusqu'au point de vue de Beaune, cette côte de Montauban qui passait par la Maladrerie, on plantera ainsi 273 frênes ou ormeaux en creusant des trous à la mine dans le roc. C'est incroyable, mais c'est vrai, nous avons les factures, comme on dit. Un chantier de titans. C'est à cette époque que sera construit le magnifique pont d'Albias. Le pont sur l'Allère à Caussade, où s'embranche à cette époque aussi la grande route royale vers Paris. Jusqu'alors, la route royale de Montauban à Paris passait par l'antique tracé de la voie romaine, par Loubéjac, Molière, Castelnau-Moratier et Cahors. Et c'est à cette époque que commence la prospérité de notre voisine Caussade que nous envions. On construit les ponts de la Maladrerie sur le ruisseau de Négocrabo. Et le lavoir sous le second pont.
Ces routes, monsieur Julien, que l'on construit, elles sont faites en pierre, bien sûr. Et comment est le revêtement de ces pierres?
Là, il faudrait poser la question à un spécialiste des ponts et chaussées, en l'espèce monsieur Massald, qui sait bien, sans doute, comme moi, que le service national des ponts et chaussées, auquel il appartient, même si ça s'appelle l'équipement, mais il appartient aussi à un service qui s'appelle les ponts et chaussées, a été créé sous Louis XV par le nommé Truden. Les ponts et chaussées datent de cette époque. Alors je pense que l'on faisait d'abord une plateforme sur le sol tel qu'il se présentait, terre ou roche, et qu'on empierrait là-dessus de façon satisfaisante parce que les charrettes qui devaient rouler devaient avoir une assise suffisamment résistante. Et puis surtout, on recouvrait de terre pour lier l'empierrement. Et là, cela me revient. Je sais qu'on a condamné à l'amende des paysans qui étaient allés balayer la terre sur la route. La grande route de Montauban à Nîmes. C'est donc qu'il y avait la terre qui devait être fine, qu'il devait utiliser peut-être pour des semis, je ne sais pas. Mais voilà tout ce que je sais sur la technique de construction. Il faudrait faire des études plus sérieuses.
Ces grands axes, la construction de ces ponts, ont permis, vous l'avez dit, l'expansion de Caussade, mais aussi l'isolement de Saint-Antonin. Et oui. Est-ce que les consuls de l'époque s'en étaient inquiétés?
Ils s'en étaient beaucoup inquiétés, évidemment. Ils ont essayé d'obtenir que le tracé de la route de Montauban à Nîmes passe par Saint-Antonin, mais c'était une règle absolue chez l'escalopier, on ne passait pas dans les vallées. Et vous me dites, il est passé par Caylus, évidemment, il fallait bien passer quelque part. Mais si vous prenez le trajet le plus court, le tracé le plus court de Montauban à Villefranche, on ne pouvait pas passer par Saint-Antonin. Donc on néglige Saint-Antonin, et tant pis pour Saint-Antonin. Alors, à titre de consolation, l'escalopier acceptera de reconstruire la côte, la nouvelle côte qu'on appelait la nouvelle, qui est maintenant la vieille côte de Caussade, dite de Montauban, et il construira aussi, il fera construire cette belle antenne de la route de Montauban à Villefranche, à Saint-Antonin, à travers le Causse, sur le plateau de Servanac, toute droite. mais Saint-Antonin ne sera qu'au bout d'une petite antenne. De même, Najac, la grande route de Montauban à Nîmes ne passera pas à Najac. Et on prévoira, mais ce ne sera jamais construit, du bout de la côte de Villefranche, bien au-delà d'ailleurs, vers la baraque de Pachin, un embranchement rectiligne aussi sur Najac qui, lui, ne sera jamais construit. Mais voilà, Najac et Saint-Antonin, les deux plus anciennes cités du Barouergue, seront laissées de côté par la grande route moderne de Montauban à Nîmes. Et c'est encore une fois une explication de leur déclin. Alors, sur toutes ces routes nouvelles, grandes ouvertes, larges, droites, se lance la troupe des voyageurs, rouliers, cavaliers. Ce sont des marchands, des trafiquants, des maquignons. Ce sont les troupes en convoi, les courriers, les malpostes, toute une foule qui, comme au plus beau jour du Moyen-Âge, va, circule, s'arrête au relais, aux auberges, à ces baraques que vous connaissez du côté là-haut du Ségala, construites exprès comme des asiles ou des refuges, car la route n'est pas sûre alors. Tout un peuple l'habite, la parcourt, les mendiants et aussi les gens sans aveu, contrebandiers et bandits qui guettent le bourgeois et défient les agents de l'autorité, détroussent les marchands et se livrent, tel mandrin, à la contrebande du sel en particulier.
Mandrin a peut-être hanté nos campagnes. Et d'ailleurs, on le signale à Saint-Rome-de-Tarn. Il courait les routes avec sa bande, à l'affût des agents des fermiers généraux qui rentraient de tournée, les sacoches pleines de l'argent des impôts, dont il s'emparait. Deuxième aspect de ce personnage, la contrebande. Il se procurait des marchandises en Savoie, les passait en fraude à la frontière et en inondait le Dauphiné, les régions de Lyon, Mâcon et jusqu'au Rouergue. Les paysans pouvaient ainsi s'approvisionner à bas prix et en particulier acheter du sel hors taxe. On comprend le succès de Mandrin auprès du petit peuple. D'où sa légende, qui en fait un brigand sympathique. D'où cette complainte bien connue que va chanter spécialement pour Radio Nobleval la chorale des Amis du Vieux Saint-Antonin. Soliste Jean Marchal, xylophone Jacqueline Bourté.
Nous étions vingt ou trente brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode, vous m'entendez, tous habillés de blanc à la mode, marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir oublié la bourse d'un, vous m'entendez. C'est d'avoir oublié la bourse d'un curé. Entrée dedans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouvais mille écus, je mis la main, vous m'entendez. J'y trouvais mille écus, je mis la main dessus. J'entrais dedans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. De robe et de manteau, j'en chargeais trois, vous m'entendez. De robe et de manteau, j'en chargeais trois chariots. Je l'ai porté pour vendre à la foire en Hollande. Je l'ai vendu bon marché, il m'avait rien, vous m'entendez. J'ai vendu bon marché, il m'avait rien coûté. Ces messieurs de Grenoble avaient leur longue robe et leur bonnet carré mûrent bientôt, vous m'entendez. Et leur bonnet carré mûrent bientôt jugé. Ils m'ont jugé à pendre, que c'est dur à entendre. Apprendre à être anglais sur la place du, vous m'entendez. Apprendre à être anglais sur la place du marché. Monter sur la potence, je regardais la France. Je vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez. Je vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnon de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus. Je suis un enfant, vous m'entendez? Qu'elle ne me verra plus, je suis un enfant perdu.
Compagnon de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me verra plus, je suis un enfant, vous m'entendez? Qu'elle ne me verra plus, je suis un enfant perdu.
Ainsi donc, si l'on peut dire, la vie bouillonne en ce 18e sur les routes, mais aussi dans les villes, malgré la dureté du temps pour les moins favorisés, pour les pauvres, les brassiers, les journaliers, qui de moins en moins d'ailleurs acceptent l'inégalité sociale et se font plus téméraires et plus arrogants aux yeux des gens en place. En dépit des habitudes, des traditions, de la rigueur des lois, ces déshérités refusent la résignation. On sent partout naître un esprit nouveau de contestation, d'explication qui se manifeste ici et là dans la vie communale, comme nous le verrons dans la prochaine émission.